Avec Les travailleurs de la mer, adapté du roman de Victor Hugo, Michel Durand renoue avec ses amours graphiques passés, ceux de ses années de beaux-arts. Avec un traitement de l'image à base d'entrelacs de petits traits, Les travailleurs de la mer sont en résonance avec l'art de la gravure de l'époque. Une œuvre d'ampleur que Michel Durand a mis plus de 4 ans à réaliser. Nous serons avec l'auteur vers 14h15, 14h20, pour qu'il nous présente ses processus de création. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Fabien est en technique et la programmation musicale a été faite par Michel Durand et nous écouterons successivement Léo Ferré, Édith Piaf et Led Zeppelin. Les livres que j'ai choisis pour entourer le livre des travailleurs de la mer sont tous en lien avec la littérature, avec l'art, avec la création. Et commençons tout de suite par le tome 2 de Crénom Baudelaire, d'après le roman de Jean Tellet. Cette adaptation a été faite par Dominique Ettineau-Gelly. Ce tome 2 est consacré aux fleurs du mal. Il y a eu une réserve importante à la lecture de ce roman graphique, de cette adaptation, et qui a fait que ça perturbé profondément ma lecture et je n'arrivais pas à poursuivre, à m'immerger vraiment dans ce récit. Deux réserves importantes. La première, c'est le choix de la calligraphie. Alors que on a des cases avec l'écriture de Baudelaire, avec la façon dont il a travaillé son poème, dont il l'a corrigé. Ça a été permis grâce à l'autorisation de la BNF qui a ces documents où on a le manuscrit qui est raturé, corrigé, travaillé par Baudelaire et on a dans la bande dessinée l'utilisation d'une police numérique qui ne rend pas compte de ce travail de fond, alors qu'il y a des possibilités de numériser sa propre écriture, on perd avec cette police numérique toute l'émotion qu'il peut y avoir dans le lettrage. J'avais précédemment fait une émission avec Jean-François Rey, qui est un auteur qui a travaillé profondément sur cette adaptation d'une police manuscrite pour en faire une police numérique avec toutes les subtilités. Et là, on ne profite pas de l'importance de ce travail de typographe et calligraphe. Après cette première réserve, il y en a une autre qui est la fragmentation de l'image qui, à des moments, nous éloigne également de cette dimension de l'œuvre de Baudelaire, son contexte qui est le 19e siècle et qui fait que on va là non plus, on ne rentre pas dans l'intensité du roman de Jean Tellet. Cette fragmentation, elle s'opère parce que, à plusieurs reprises, eh bien, Dominique Ettineau-Gelly vont hésiter à adopter un mode de découpage unique. On va passer du 4 bandes sur une double page, avec donc un nombre de cases important par page. On peut aller jusqu'à plus d'une douzaine de pages, douzaine de cases par page. On a parfois sur une double page celle de gauche avec 4 bandes et celle de droite avec 3 bandes. Et donc l'espace de la case n'est pas du tout le même. Et associé à cette utilisation du quatre-band, il y a régulièrement, fréquemment, l'utilisation de petites cases pour être près des personnages, pour les cadrer serrés, en portrait, en plan américain. Et ce n'est pas forcément le propos. L'idée, c'est de vraiment être dans la dimension de l'auteur, dans la dimension intérieure. Et avec ce fractionnement de cases, on réduit cette ampleur, cette personnalité, cette dimension artistique à simplement une sorte d'échange entre quelques protagonistes. Toute la relation avec sa compagne noire passe presque à l'arrière-plan, mais elle n'a pas cette intensité comme celle qu'avait pu trouver, mettre en œuvre et mettre en image Isler avec Mademoiselle Apollinaire. Il y a donc dans cette adaptation littéraire une dimension contrariante. Jean Tellet est un auteur qui avait abandonné la bande dessinée pour l'écriture, disant que la bande dessinée, c'était le bruit, alors que l'écriture, au contraire, c'était le murmure. Avec ce traitement à la fois narratif et graphique, il y a une sorte d'appui, de virage vers le bruit de la couleur, de la mise en scène, du cadrage, plutôt que d'en retenir, au contraire, le côté murmure que l'on commence à ressentir lorsqu'on est avec cette mise en scène en trois bandes. C'est donc une adaptation littéraire qui n'a pas trouvé toute son ampleur. Crénom Baudelaire, tome 2, Les fleurs du mal, d'après le roman de Jean Tellet, c'est publié par les éditions Futuropolis, et les 144 pages de ce roman graphique sont au prix de 25 €. Le livre a été imprimé en Belgique. Virgule. Poursuivons avec un autre rapport à la littérature qui est celui du texte illustré. Anne de Fréville est une spécialiste du récit animalier. Elle a pas en utilisant le principe de la bande dessinée animalière qui va créer des personnages, mais qui va traiter du monde animal à travers des récits de bande dessinée. Et elle a choisi d'illustrer Le Lion de Joseph Kessel. C'est un roman qui a été écrit en 1958 et on a, avec les images, les aquarelles de Anne de Fréville, un lien puissant qui se crée entre le texte et l'image. Cette utilisation de l'image associée à un roman est loin d'être récente. Tout le monde a en mémoire les éditions Hetzel et leur publication avec des gravures de Gustave Doré, des romans de Jules Verne et qui sont rentrés pleinement dans l'histoire de la littérature. Et puis il y a déjà un premier plaisir à cette adaptation, c'est la qualité de l'impression. On lit un roman avec un papier de belle qualité qui a une main, qui est le terme utilisé par les papetiers et les imprimeurs. Lorsqu'ils touchent un papier, il y a la sensation que l'on a sous les doigts qui déjà procure un premier plaisir de lecture. Sur cet ensemble du roman de Kessel, il y a des moments où la relation entre le texte et l'image vont être au plus fort, notamment lorsque Anne de Fréville réalise des très gros plans, appelés souvent close-up au cinéma, c'est-à-dire qu'on n'a même pas la totalité du visage. Il y a donc une attention au regard, et il y a quelques très gros plans du lion, d'hommes, de protagonistes qui vont être saisissants. Sa réalisation, son association, lorsque ses plans sont un peu plus larges, est pour l'instant encore moins forte, mais on imagine facilement l'ampleur que va pouvoir prendre Anne de Freville dans ce genre d'exercice, où il est aussi essentiel d'avoir une sorte d'équilibre sur l'ensemble des images pour que la plénitude que l'on a avec ces plans très rapprochés soit de la même intensité lorsque les plans sont avec des personnages en pied. Il y a de très belles doubles pages avec des ambiances nocturnes ou au contraire avec des savanes et la présence de zèbres par exemple. Et là, il y a une émotion qui passe également dans ces images. Anne de Fréville a travaillé avec du marc de café, avec du brun noir, avec des pigments naturels et c'est parfaitement en lien avec le récit de Joseph Kessel. Les éditions Futuropolis ont 50 ans et dans la maquette de ces romans illustrés, il n'y a pas la reprise de celle de la première version de la maison d'édition qui avait repris la maquette de la collection blanche. Ce qui est important et ce qui est aussi une réussite de ce livre, c'est le lien très puissant qui va se créer entre l'auteur, le dessinateur ou la dessinatrice et l'œuvre elle-même. Anne de Fréville ne connaissait pas l'Afrique, elle la rêvait et après la lecture du roman de Kessel, elle a voyagé en Afrique et elle a pu ainsi pleinement s'immerger et on retrouve ses émotions à travers les dessins et les illustrations du lion de Joseph Kessel. Le Lion, illustré par Anne de Fréville, est publié par les éditions Futuropolis Gallimard. Les 256 pages de cette adaptation littéraire sont au prix de 29 euros et le livre a été imprimé en France. Poursuivons avec une autre relation entre texte et image. Cette fois, il s'agit d'un essai dessiné, Dieu, Darwin, tout et n'importe quoi. Les deux auteurs, Vinciane Desprez et Pierre Kroll, ont conjugué leurs talents pour mettre en œuvre une sorte de relecture de la théorie de l'évolution de Charles Darwin et de quelques œuvres complémentaires et ce qu'en ont fait les créationnistes qui refusent de ne pas associer la présence d'un dieu divin à la création du monde et notamment du monde animal. C'est déjà dans le titre cette confrontation entre théorie de l'évolution et créationnisme. Vinciane Desprez est philosophe et s'est attaché à travailler sur le monde animal, donc ce travail d'éthologie universitaire essentiel pour cette compréhension de cet univers et elle va avec ce livre s'interroger sur les fonctionnements de l'évolution, sur cette application de la théorie de Charles Darwin qui, justement, ne montre pas que l'animal va se transformer pour s'adapter au milieu, mais la transformation de l'animal va pouvoir lui permettre de subsister dans un milieu qui va évoluer, qui va se transformer. Et c'est parce que cette mutation a eu lieu qu'il a pu rester. C'est donc vraiment le phénomène inverse. Alors, Vinciane Després avec Pierre Krall vont partir d'un certain nombre, il y en a 16, animaux particuliers qui sont des points d'interrogation dans l'évolution. On peut citer le paon, par exemple. Est-ce une façon de passer inaperçu que de faire la roue ainsi pour les mâles? Est-ce que c'est simplement l'évolution de sa pratique pour trouver une femelle? Ou les bois d'une très grande largeur des caribous d'Irlande, et à chaque fois, ou le wombat, par exemple, qui fait des excréments carrés. Il y a à chaque fois donc des questions qui sont posées à l'évolution et toujours en arrière-plan, cette volonté de réfuter, de refuser le créationnisme et cette explication simpliste qui ne peut pas tenir sur des animaux de ce type, où on aurait vraiment l'impression que Dieu, eh bien, le septième jour, au lieu de se reposer, il aurait pu bosser un peu plus pour que, au moins, ces animaux soient terminés comme il faut. Et c'est là où le lien avec la bande dessinée va jouer pleinement son rôle. Pierre Krall est un illustrateur, un dessinateur de presse belge. C'est pas un auteur qui a une œuvre de bande dessinée, mais par contre, c'est un auteur qui a une œuvre de dessinateur de presse et de dessinateur humoristique. Et donc, il y a dans son trait une efficacité ironique d'une grande ampleur. Et donc, il va mettre en scène, avant chaque présentation de l'animal choisi pour questionner l'évolution, avec des images ou des séquences de bande dessinée, aussi bien le dialogue entre Dieu et Darwin, qui se titille, et la mise en présentation de l'animal avec des séquences qui vont être souvent hilarantes. Celle, par exemple, du wombat, où en quelques images, il y a cette discussion entre lapin et wombat, qui le lapin est sidéré par le fait qu'un wombat puisse faire des fesses carrées. Alors bien sûr, en captivité, ça ne marche pas, mais en liberté, là, c'est la réalité. Donc cet essai est très astucieux. D'une part parce que on est vraiment dans la perception de connaissances scientifiques précises, d'une éthologie sur des animaux qui fascinent. Et le questionnement sur la théorie de l'évolution tient compte de toutes les dernières innovations scientifiques. Et donc, on a vraiment une compréhension du vivant qui est d'une très grande qualité scientifique. L'association avec le dessin de Pierre Krall marche à fond et ça montre cet accord parfait entre le dessin, l'ironie qu'il peut porter et la question scientifique. Et là aussi, Vinciane Després ajoute des touches humoristiques tout en gardant cette rigueur scientifique. Dieu, Darwin, tout et n'importe quoi est écrit par Vinciane Després et complété par des illustrations et des bandes dessinées de Pierre Krall. Ces histoires naturelles sont publiées par les éditions Les Arènes Bandes Dessinées et les 208 pages de ce livre sont au prix de 24 euros et le livre a été imprimé en Belgique.
Avec le temps, va, tout s'en va, on oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur, quand ça bat plus, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Faut laisser faire et c'est très bien. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. L'autre qu'on adorait, qu'on cherchait sous la pluie, l'autre qu'on devinait au détour d'un regard, entre les mots, entre les lignes et sous le phare d'un serment maquillé qui s'en va faire sa nuit. Avec le temps, tout s'évanouit. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. Même les plus chouettes souvenirs, ça t'a une de ses gueules. À la galerie, je farfouille dans les rayons de la mort. Le samedi soir, quand la tendresse s'en va toute seule. Avec le temps va, tout s'en va. L'autre à qui l'on croyait pour un rhume, pour un rien, l'autre à qui l'on donnait du vent et des bijoux, pour qui l'on eût vendu son âme pour quelques sous, devant quoi l'on se traînait comme traînent les chiens. Avec le temps, tout va bien.
Depuis son début de carrière dans les pages de Flux Glacial à la fin des années 70 et avec la série Cliff Burton, où il succède à Frédéric Garcia, Michel Durand a toujours associé l'ironie à l'écriture dessinée. Avec la complicité de scénaristes comme Alexandro Jodorowsky ou en tant qu'auteur complet, Michel Durand pulvérise la bienséance, renvoie les auteurs de bandes dessinées gnangnan dans leur bac à sable. Avec le pseudo Durandur, il explore les limites des récits dessinés, par exemple avec Durandur s'excuse 04 67 66 33 40. Le dessin s'adapte parfaitement au récit, un trait marqué par la déchéance, un expressionnisme en phase avec le bruit du monde. Aujourd'hui, Michel Durand publie une adaptation dessinée des Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Dans un noir et blanc aux hachures savantes, où l'auteur apporte des propositions picturales riches de l'art de la gravure, associées à une mise en scène au cordeau et un sens du récit éprouvé. Nous sommes avec Michel Durand pour qu'il nous donne quelques pistes dans les coulisses de son écriture dessinée. Bonjour Michel Durand.
Bonjour Bruno.
Alors, est-ce que vous êtes un cruel comme Villemain ou Willem peuvent l'être, qui serait un peu le ce qui est exploré dans Durandur?
Ben, je crains que oui. Oui.
Ça peut être tout à fait une qualité, il n'y a aucun problème.
Oui, c'est pour ça que je le dis. C'est-à-dire qu'il y a même un sage qui va dire qu'il est sage parce qu'il a accepté ses travers. Voilà, je ne sais plus lequel. Mais nous avons une composante, nous tous, un peu terrible, un peu sombre. Ou alors révoltée. Voilà.
Comment se passe le dessin, par exemple, quand vous dessinez Durandur, votre privé terrible?
Ça fait déjà un moment, hein, d'ailleurs.
Oui, je sais bien.
Durandur, hein, c'est-à-dire que c'est du dessin direct, ça, techniquement parlant, c'est du dessin absolument sans crayonner. C'est, c'est l'écriture automatique, mais avec un background assez important, quoi, académique. Et c'est une page par jour, quoi. Et avec tout en improvisation, sans écriture préalable, voilà, avec quand même une trame apprise, mais c'est une forme d'improvisation. Donc c'est censé être anti-bourgeois, non publiable, et mais avec un beau dessin, voilà, qui assoit le travail, vous voyez.
Alors,
excusez-moi, mais c'est pour ça que ce n'est pas du vide main, ce n'est pas du dessin humoristique, c'est un fond réaliste, presque traditionnel, mais expressionniste, et tout en parlant des mêmes choses quasiment que vide main. Bon, avec un fond un peu plus métaphysique, mais voilà. Donc je pourrais très bien faire les mêmes histoires que vide main, ça passerait pas, vous voyez. Passerait pas du tout.
Alors, bon, voilà. Quel cheminement avez-vous fait pour arriver jusqu'au Travailleur de la mer, de cette adaptation du récit, ouais, de Victor Hugo?
Moi, j'ai fait les Beaux-Arts, et mes grands classiques, c'était Rembrandt, c'était Gustave Doré. Je me rappelle travailler déjà avec des petits traits, comme ça, des hachures. Et ça a été enfoui après, lors de ma carrière, quoi, par le trait efficace, le trait de l'école belge. Et puis est réapparu cette technique parce que ça, c'était adaptable, c'était bien pour le propos, quoi. Mais ce n'est pas une technique de bande dessinée, quoi, à suivre. Évidemment, c'est pas très efficace, quoi. Depuis 40 ans, oui, je n'ai pas travaillé de cette façon. Et là, c'est réapparu. On m'a demandé, mais comment fais-tu pour avoir une technique comme ça qui d'emblée se met en forme aussi facilement? Ben parce que c'est mon premier erré, c'est mon premier mes premières accroches avec l'art dessiné, quoi. Voilà, donc alors,
Michel Durand, donc vous êtes avec les Travailleurs de la mer, comment s'est fait l'appropriation du récit, comment l'avez-vous visualisé?
Bon, alors c'est bien de dire visualiser, parce que il y a le fait que Victor Hugo est un scénariste, est un cinéaste d'emblée, est un illustrateur, comme j'ai pu le dire par ailleurs, peut-être meilleur dessinateur qu'écrivain. Un immense dessinateur, immense. Bon, ça, c'est pas très connu. Et il travaille visuellement. Voilà, il suffit d'appliquer ce qui est écrit, quoi, en bande dessinée. Ça pourrait être fait, bon, ça a été fait, hein, au cinéma. Ce n'est pas le cas chez d'autres auteurs. Hein. On va avoir un peu plus de mal avec Flaubert. Hein. Donc j'ai trouvé le roman, comme Les Misérables, le roman, j'ai trouvé perdu dans la rue. Vous savez, les cartons là, de livres qu'on peut prendre, qu'on peut remettre. Et je n'avais jamais lu de Victor Hugo jusqu'à le moment. Je l'ai lu et j'ai pleuré. Voilà. Donc j'ai proposé ça à l'éditeur, qui adore Victor Hugo, et par son orientation, on est arrivé à faire de la gravure, quoi. Voilà. C'est comme ça que ça s'est fait. Bon, je sais pas trop quoi dire d'autre.
Hein. Alors moi j'ai quelques questions complémentaires sur ce principe d'adaptation, parce que c'est toujours assez personnel comment on passe de l'écrit à des doubles pages et à un ensemble dessiné. Comment, ouais, vous travaillez sur le texte, Michel Durand?
Oui, alors... Le Victor Hugo, ça peut être difficile à lire, parce qu'il y a des descriptions à l'infini, ce soit technique, que ce soit psychologique, qui casse la dynamique. Donc moi, j'ai eu la chance de trouver un livre abrégé, déjà un roman abrégé pour les ados. Vous voyez ? Donc, et après ça, j'ai sorti des petites pépites, des phrases, des sentences qui sont typiques de l'époque et qui sont révélatrices de l'art de Victor Hugo. Quoi. Et ensuite, pour ce qui est de la mise en page et même du nombre d'images par page, j'ai écouté l'éditeur. J'ai suivi un peu ce que Georges Besse, un autre dessinateur chez Glénat, a fait, c'est-à-dire de proposer 5 images par page maximum. C'est-à-dire pour faire un peu illustration. Quoi. Donc, comme avec 5 images, on peut faire de grandes images, de grandes vignettes, ça m'a permis de montrer les espaces maritimes tels que Victor Hugo a pu les pressentir. Quoi. Donc voilà, il y a des doubles pages. Enfin non, de toute façon c'est du roman graphique, donc on peut s'épancher, hein, y a pas de problème. Mais voilà.
À quel moment intervient le dessin et sous quelle forme ? Est-ce que les pépites que vous avez extraites, est-ce qu'elles sont, est-ce qu'elles suscitent des images ? Est-ce qu'il y a une recherche graphique importante, même une recherche de documentation, notamment il est question de navires de différentes tailles. Comment avez-vous travaillé ?
Ah ben je répète que Victor Hugo travaille en images, il écrit en images, hein. c'est un scénariste de film, c'est un cinéaste. Voilà, comme Hitchcock faisait ses storyboards, il y en a d'autres. Hein. Donc c'est pas très difficile de mettre ça en bande dessinée. Ensuite, pour ce qui est de la documentation, et des images qui apparaissent, on a Internet. C'est pas compliqué. J'avais sur mon iPad, à la fin de mon travail qui a duré 4 ans et demi, 3500 images. Vous voyez ? De bateaux, de mer, d'oiseaux, de tout ce qu'on veut. Donc après, on fait un mix, quoi. Mais alors, l'astuce sur ce travail-là, c'est que j'avais des référents. Donc il y a deux référents en priorité qui sont Franklin Booth, qui est un grand illustrateur du début de siècle, un grand illustrateur américain, et puis Bernie Wrightson, qui a adapté Frankenstein. Ce sont des illustrations. Donc ce sont des hachures. Et j'avais donc sur mon ordinateur toutes les images que j'ai pu trouver de ces deux dessinateurs et d'autres aussi, hein, Emile Cole, et puis voilà, toute une ribambelle d'images associées à la mer, à Guernesey. Et donc dans la réalisation même de la bande dessinée, pendant le travail même, je naviguais entre mon ordinateur et ma page. Vous voyez ? Parce que moi, d'emblée, ce n'est pas ma technique.
Comme j'ai fait pas mal de scénarios,
j'ai senti d'emblée que j'aurais à peu près 150 pages.
C'est fini.
Donc voilà. Pour revenir à cette technique, il va falloir plus revenir à ces
150 pages.
Selon l'argent que j'allais recevoir, c'était à peu près
correct. Moi, je vais spontanément vers
une écriture qui est plus courbe, plus
alors, Michel Durand, je vous propose une pause musicale et puis on se retrouve dans quelques minutes où on parlera un peu plus justement dessin. Ouais. À tout de suite.
Voilà, donc,
Et est-ce que vous avez storyboardé, cherché à obtenir un découpage complet, ou est-ce qu'il y avait une écriture dessinée qui se mettait en place avec découpage et puis travail de dessin au fur et à mesure. Michel Durand.
Oui, je vois ce que vous dites. C'est-à-dire, il y a un monsieur qui s'appelle Hergé qui faisait les deux, qui écrivait en storyboardant en même temps, qui faisait les dessins, qui mettait ça, qui faisait sa mise en place des planches. Hein, moi, c'est classique, hein, c'est au départ une synthétisation du roman, avec des marque-pages, etc., sur le roman, des surlignages. Comme j'ai fait pas mal de scénarios, j'ai senti d'emblée que j'aurais à peu près 150 pages. Voilà, bon, j'aurais pu en faire plus, mais 150 pages, selon l'argent que j'allais recevoir, c'était à peu près correct, vous voyez ? Donc, c'est comme ça que ça se fait.
Alors, Michel Durand, je vous propose une pause musicale et puis on se retrouve dans quelques minutes où on parlera un peu plus justement dessin. Ouais. À tout de suite.
Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer. Et la terre peut bien s'écrouler. Je m'abandonne, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains. Je m'aborde les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune, si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis, si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi, si tu me le demandais. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu meurs, que tu sois loin de moi, je m'aborde, si tu m'aimes, par moi je mourrai aussi. Nous aurons pour nous l'éternité dans le bleu de toute l'immensité. Dans le ciel, plus de problèmes, mon amour, crois-tu qu'on se...
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Michel Durand à l'occasion de l'édition de son livre « Les travailleurs de la mer » adapté du roman de Victor Hugo. Michel Durand, sur la partie dessin, il y a des questions de dessin qui semblent résolues, comme par exemple celle de la représentation de la mer. Elle est dans tous ses états, à la fois mer d'huile, avec un mouvement un peu important, ou parfois sous la tempête. Comment s'est fait ce travail graphique sur la représentation de la mer ?
Tout d'abord par une peur, une certaine tension à l'idée de devoir mettre la mer en furie avec des petits traits. Vous voyez, c'est extrêmement difficile. Donc, l'objectif ensuite c'était de montrer une hystérie de la mer, d'aller au-delà des 10 mètres, des 20 mètres maximum dédiés aux vagues scélérates, c'est de passer à 30-40 mètres. C'est-à-dire c'est l'hyperbole hugolienne. Donc, mais la particularité de ce traité gravure, c'est de pouvoir le montrer par des petites hachures, et les petites hachures sont pas nécessairement un mouvement, une geste ample. C'est du détail. Donc voilà la difficulté. Mais pour montrer par exemple une mer déchaînée, de montrer des petits traits comme ça, nous montre le foisonnement, la complexité de la vague même, et après avec le recul apparaissent des formes incroyables. Mais voilà, la difficulté, c'est le petit pour aller au grand. Mais j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu beaucoup de mal, mais au départ, j'avais beaucoup de temps de réflexion, beaucoup de construction, beaucoup de brouillon, hein, mais vraiment beaucoup, pour trouver des formes originales, des mers originales, des vagues, des cadrages originaux. Pour l'anecdote, j'ai eu peur qu'on me tape sur les doigts, qu'on me dise, mais là c'est trop, ça allait trop loin, ça n'existe pas. Mais bon, comme c'est une représentation subjective de la tempête ou de la mer d'huile, hein, aussi, c'est passé, quoi. Il y a pas, donc ça marche bien. Voilà.
Comment se passe, Michel Durand, l'aller-retour entre l'image et votre projet graphique, celle que vous visualisez en vous? À quel moment vous vous dites, ça y est, je suis au bon endroit, l'image correspond, ou est-ce que c'est toujours avec un peu d'insatisfaction? Parce qu'il y a une scène, une double page avec une mer où les nuages se reflètent dans l'eau, où il y a une sorte de puissance et de surprise, parce que c'est une image qu'on n'a pas l'habitude de voir dessinée. Comment se passent ces allers-retours entre l'image en train de se faire et vous-même?
Ça c'est formidable comme question, c'est très bien. Moi je remercie et en même temps je réfute Internet. Voilà, donc grâce à Internet, à Google, hein, on recherche images, et puis peut-être au métier, j'ai pu travailler mes cadrages, je reviens là-dessus, mes cadrages, la composition. Et en comprenant, parce qu'on apprend toujours hein, sur le métier, en comprenant que il faut être original, de pouvoir trouver un angle qu'on n'a jamais vu. Voilà, c'était ça la dominante sur toutes les images. Mais pour ça, il faut avoir tous les référents, tous les illustrateurs en tête ou en représentation, tous les dessinateurs de BD et autres. Et de pouvoir trouver un angle un peu étrange, quoi, un peu particulier. Quoi. Je n'aurais pas pu faire ça sans Internet. Je crois pas. J'ai même eu à des moments des révélations en tant que dessinateur pur, une révélation en particulier sur une image où le point de fuite de la mer au loin. Comme je le faisais traditionnellement, hein, j'ai abaissé le point de fuite. Et j'étais surpris moi-même. Je lui ai dit, mais ça, c'est parce que j'ai beaucoup d'informations, j'ai beaucoup de documentation, et je peux discriminer. Voilà, l'aller-retour, c'est cette multiplicité d'informations. Et de plus, il y a les images de Victor Hugo, même. je répète, que personne ne connaît quasiment. Les Victor Hugo a dessiné les protagonistes, il a dessiné le bateau, il a dessiné la mer démontée, il a dessiné les roches qui sont les héros, les héroïnes plutôt de cet album. C'est comme des défenses immenses d'éléphants qui dépassent de la mer. Et entre ces défenses est insérée la coque du bateau. Mais il l'a dessiné. Je pense que c'est beaucoup de réflexion. Il ne faut pas se lancer comme ça sur l'image et puis exécuter une image en passant à une autre. Il faut beaucoup de réflexion. C'est ce que je pense. C'est ce qui m'est arrivé sur cet album. Donc je le redis, qui a duré, la réalisation, c'est 4 ans et demi en tout, en ayant moins de réflexion sur le travail même de l'image, j'aurais pu mettre 2 ans, vous voyez. Oui. Voilà. C'est en amont et en aval. Après coup, en aval aussi. Quand l'image est finie, quand les pages sont terminées, elles sont assemblées dans mon atelier à la Queue-Leu-Leu, et je peux revenir des années après dessus, en découvrant des erreurs ou en imaginant d'autres propositions. Voilà, donc moi je n'ai pas donné mes originaux avant plusieurs années à l'éditeur. Voilà.
Il y a un point qui me paraît important à souligner, Michel Durand, c'est le rapport au lointain. Dans vos images, il y a vraiment un lointain avec un cadrage très très large qui donne une amplitude importante au cadrage, puisqu'on a aussi des gros plans. Qu'est-ce que vous permet ce lointain dans l'image?
Tout de suite, ce qui me vient, c'est l'idée de la détente de l'œil, que l'œil va pouvoir se reposer après tous ces millions de petits traits. La détente du lointain et la détente, c'est que le lecteur lui-même va pouvoir imaginer des choses. Voilà, c'est un peu ça. Ensuite, par la technique même, la technique des petits traits, on est amené à faire des lointains. Car on peut faire de très gros traits, des tout petits traits, des traits infimes. Et graphiquement, la profondeur de champ, elle est rendue par cette contrainte du petit trait et du gros trait. Le premier plan va être avec des traits très gros, puisque c'est toujours des traits. Il n'y a pas d'aplat. Hein. Donc, et les petits traits, après, amènent le lointain.
Quel dessinateur êtes-vous? Comment êtes-vous sur la planche à dessin ou sur la tablette graphique? Est-ce qu'il y a une maîtrise du geste qui est absolument nécessaire? Ou est-ce qu'il y a un reste d'énergie, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, pour Durand-Dur?
L'école américaine est la seule qui peut rendre compte de ce type de travail. En France, ça n'existe pas. Voilà. Alors donc, on va sur Internet, encore une fois, et on tape Franklin Booth. Donc, il y a des admirateurs de Franklin Booth ou de Bernie Wrightson. Et après, il y a des applications. On voit des dessinateurs réaliser des images selon cette technique. Et ça prend un temps fou. Ça prend un temps fou. Donc moi, j'ai regardé ça en détail, et je me suis permis de prendre du temps. Donc, quand j'ai dessiné cet album, j'ai pris un temps immémorial. C'est-à-dire que c'est l'enluminure. C'est-à-dire que chaque trait, on ne peut pas dire que ça va prendre une minute, mais presque. C'est très 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 lent. Donc c'est très étudié. Il n'y a pas d'envolée lyrique. Il n'y a pas de très spontané. Par les petits traits, je sculpte un visage, un personnage, un rocher, la mer, une vague, et sans contour. Donc la lumière va entrer dans la forme. Vous voyez, vous comprenez? Bien. Donc c'est très 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 long. Donc ensuite, pour faire un visage, pour construire le visage sans que ça fasse, en étant dans l'abstrait et dans le figuratif, parce qu'on navigue entre deux choses, il faut savoir comment placer ces traits en marqueterie. C'est de la marqueterie. C'est beaucoup de réflexion, et comme je ne suis pas très intelligent, c'était très long. Voilà. On peut dire qu'il y a beaucoup de sueur. Bon, après, l'intérêt dans ce type de travail, c'est qu'il y a comme de l'épiphanie, une épiphanie. Il y a cette perdition dans le détail, hein, la loupe, et ensuite, en prenant un recul visuel, il y a une apparition. L'image apparaît. Vous voyez ? Donc et là, c'est un soulagement et en plus une sorte de complétude, hein, puisqu'on se dit « Ah, je suis pas mauvais quand même !» Mais derrière ce travail, il faut quand même beaucoup d'années de dessin. Il y a une structure derrière, il y a de l'anatomie, il y a de la perspective, il y a beaucoup de travail qui fait qu'on va pouvoir utiliser ces petits traits. Il y a 15 ans de ça, je n'aurais pas pu le faire. Impossible.
Une dernière question, Michel Durand. Quelle est l'ambiance musicale de votre atelier ? L'ambiance sonore même.
Oui. L'ambiance sonore, c'est que je suis un homme très nerveux, très anxieux, et qui a tenté la méditation et travaillé dans le vide, sans radio, sans quoi que ce soit. Ça n'a pas tenu longtemps. Donc, quand je fais les brouillons et quand je fais le scénario, c'est de la musique. Voilà. Et tout type de musique. Et quand je passe au dessin, je me détends un peu, je vais mettre France Culture ou les infos. Milieu musical et sonore dans lequel je travaille, c'est d'énormes propositions musicales. Voilà, donc ça part dans tous les sens.
Merci beaucoup, Michel Durand, pour d'avoir répondu à mes questions. Et je rappelle donc votre livre, Les Travailleurs de la mer, adapté du roman de Victor Hugo, avec ces dessins aussi donc qui ont été que vous avez consultés. Donc les Travailleurs de la mer. Le livre, le roman graphique est publié par les éditions Glénat, qui avait publié également les adaptations de Georges Besse. Oui. Merci et très bonne continuation. Et puis donc je pense que vous serez à Angoulême, puisque votre livre est nominé pour le prix du meilleur album, le Fauve du meilleur album de l'année.
Et puis le prix des lycéens aussi.
Et le prix des lycéens, effectivement. Ce qui est un très bon choix de leur part.
Exactement. Ça va être un classique de la bande dessinée. C'est, bon, si vous voulez lire Victor Hugo avec aisance, vous prenez mon album. Voilà.
Voilà. C'est dit.
Et je vous remercie pour vos questions extrêmement pointues et précises. C'est très, très bien.
Merci. Voilà. Au revoir, Michel Durand.
Merci, Bruno. Au revoir.
Au revoir.
I'm a traveler of all time and space.
Retrouverons en 2025 pour de nouvelles émissions Écriture dessinée avec d'autres et de nouveaux entretiens. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.